VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 20 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Segulia. Les titres pour commencer, au Mali, au moins 20 civils et en casque bleu ont été tués dans le nord. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, accentue la pression sur deux géants miniers. Sommet ce lundi à Nairobi, au Kenya, des dirigeants d'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Manifestation de centaines de personnes hier à Tunis contre les politiques du président Saïd, sa révocation de 57 juges et son projet de constitution. En France, la coalition du président Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale au second tour des législatives de dimanche. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Houpatine ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, des hommes armés ont tué samedi au moins 20 civils près de la ville de Gao et un casque bleu est mort dimanche à Kidal dans le nord du pays où la situation sécuritaire se détériore. Selon une source policière ayant requis l'anonymat, les tueries de samedi ont eu lieu à Ebak, à 35 km au nord de Gao et dans des localités voisines. Elle a évoqué un acte perpétré par des criminels armés. Et une autorité locale a de son côté accusé les djihadistes d'assassinat de 24 civils dans la commune de Anchawazd, ajoutant que c'est la panique générale. Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est se réunissent aujourd'hui à Nairobi pour discuter de la situation en RDC. Le sommet se tient dans un contexte de tension entre Kinshasa et Kigali. Abdourahmane Dia.
Selon un communiqué de la présidence kenyane, Uhuru Kenyatta, président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, convie les chefs d'État de sept pays de l'EAC à un sommet ce lundi pour évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les habitants de cette région ont longtemps souffert et continuent de payer un prix très élevé en vies humaines et destruction de biens, indique le communiqué. Ce sommet régional intervient alors que les tensions ont redoublé ces dernières semaines entre la RDC et le Rwanda avec la résurgence de la rébellion du M23 accusée d'avoir tué en janvier au moins 26 militaires congolais dans une attaque. Depuis, Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion à prédominance Tutsi, ce que Kigali dément. M. Kenyatta avait appelé mercredi au déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC afin d'y rétablir la paix. Des chefs militaires régionaux se sont retrouvés dimanche afin de mettre au point les préparatifs pour le déploiement de cette force. En fin de semaine, le gouvernement congolais a refusé que le Rwanda participe à cette force régionale sur son sol.
La Belgique restitue ce lundi à la République démocratique du Congo une dent de Patrice Lumumba et en valeur de relique qui doit permettre d'offrir aux Congolais un lieu dédié à la mémoire de leur ex-premier ministre torturé puis abattu en 1961. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, accentue la pression sur des compagnies minières. Il a imposé un délai de 14 jours pour la création d'une co-entreprise chargée de l'exploitation du gisement de fer de Simandou, un des plus vastes du monde. John Lyndon nous en dit plus.
Après sa rencontre vendredi avec les dirigeants des deux géants miniers, Winning Consortium Simandou et Rio Tinto Simfer, le colonel Mamadi Doumbouya a exprimé son mécontentement quant à la mise en œuvre des accords miniers avec le gouvernement guinéen. Nous avions convenu d'un certain nombre d'engagements pour le co-développement du projet Simandou. Après 3 mois, nous constatons un décalage entre la mise en œuvre des termes de l'accord et nos attentes. Cette situation est non seulement regrettable, mais aussi inacceptable pour l'État guinéen, a dit le chef de la junte au pouvoir. Il leur a donné un délai de 14 jours pour avancer efficacement vers la création de la co-entreprise. Un accord a été signé il y a 3 mois pour une durée de 35 ans avec les deux géants miniers. Il prévoit la construction d'un chemin de fer d'environ 670 km pour relier le corridor minier à un port au sud de Conakry. Ces projets doivent être terminés d'ici fin 2024 et la première production commerciale au plus tard à mars 2025.
En Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté dimanche dans la capitale Tunis contre le projet de nouvelle constitution qui doit être soumis à référendum en juillet, ainsi que la révocation de 57 juges par le président Kais Saied. Les détails avec Rosine Mounezero.
Le peuple veut l'indépendance de la justice et constitution, liberté et dignité, ont scandé les manifestants descendus dans la rue à l'appel du Front de Salut National, une coalition d'une dizaine d'organisations d'opposants. Un dialogue national a été organisé par le président Kais Saied il y a 2 semaines pour élaborer une nouvelle constitution. Le dialogue a été boycotté par l'opposition, dont la puissante organisation syndicale UGTT, qui estime que des acteurs clés de la société civile et les partis politiques en sont exclus. Une ébauche de la nouvelle constitution doit être remise lundi à M. Saied, avant d'être soumise dans un mois à la population sous la forme d'un simple vote, oui ou non. Ce référendum n'est qu'une fraude, a dit à l'AFP Ali Larayed, un dirigeant du parti islamo-conservateur ENADA, qui était la principale force au sein du Parlement dissous par le président Saied, lorsqu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs lors d'un coup de force le 25 juillet 2021. Le 1er juin, le président Saied a révoqué par décret 57 juges en invoquant divers motifs après avoir renforcé sa tutelle sur le système judiciaire. Cette décision a entraîné une grève des magistrats tunisiens qui entrera lundi dans sa 3e semaine.
Les pays occidentaux doivent évacuer de toute urgence les migrants les plus vulnérables bloqués en Libye, réclame l'ONG française Médecins sans frontières dans un rapport paru lundi, proposant notamment l'ouverture de nouveaux corridors humanitaires. Au Maroc, le Conseil national des droits de l'homme, un organisme officiel du pays, a appelé les autorités russes à garantir un procès équitable en appel à un jeune Marocain condamné à mort en compagnie de 2 Britanniques par les séparatistes pro-russes pour avoir combattu avec l'armée ukrainienne, a-t-on appris dimanche.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président Emmanuel Macron a subi un désaveu majeur dimanche au second tour des élections législatives, perdant sa majorité à l'Assemblée nationale. Le parti d'extrême droite Rassemblement National de Marine Le Pen réussit une percée considérable, Nanit Talani.
Selon les premières projections des instituts de sondage, la coalition Ensemble du président Emmanuel Macron, qui arrive malgré tout en tête du scrutin, obtiendrait entre 200 et 260 sièges, très loin de la majorité absolue de 289 députés sur 577 à l'Assemblée nationale. Dans un premier commentaire, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, un proche du président français, a concédé que c'était loin de ce que l'on espérait. Pour sa part, l'alliance de gauche NUP, menée par Jean-Luc Mélenchon, se situe entre 150 et 200 députés et devient le premier groupe d'opposition. Pour la gauche unie, c'est une victoire au goût amer, puisqu'elle échoue à imposer une cohabitation au président Macron. Le parti d'extrême droite Rassemblement national de Marine Le Pen obtient, lui, entre 60 et 100 députés, selon les mêmes sources, ce qui représente une percée considérable. Quant à la droite classique, elle sauve les meubles avec une 60aine de députés et pourrait se retrouver en position d'arbitre au Palais Bourbon. Le taux d'abstention devrait atteindre entre 53 et 54%, en hausse de plus d'un point par rapport au premier jour.
La présidentielle de dimanche en Colombie est doublement historique. L'ancien sénateur et ex-membre de la guérilla, Gustavo Petro, a été élu premier président de gauche du pays, mais sa colistière Francia Márquez est devenue la première afro-descendante élue vice-présidente. L'armée ukrainienne a affirmé hier avoir repoussé des attaques russes près de Severodonetsk, dans l'est du pays, théâtre de combats sanglants dans une guerre qui pourrait durer des années, selon le secrétaire général de l'OTAN. La Minute Echo, Nani Talani.
La SFI, la branche d'investissement de la Banque mondiale, vient de conclure un accord avec Vista Bank en Guinée et au Burkina Faso pour mettre en place des facilités commerciales pouvant atteindre 24 millions de dollars en faveur des importations de denrées alimentaires, de matières premières, de produits pétroliers raffinés, d'équipements et de biens de consommation. La SFI fournira également des services de conseil pour renforcer les capacités de gouvernance d'entreprise et de gestion des risques de Vista Bank, dont le siège social se trouve au Texas, aux États-Unis. La Zambie prolonge de 3 mois jusqu'en septembre une subvention au carburant qu'elle prévoyait de supprimer pour maîtriser sa dette. Le gouvernement se dit conscient de l'impact que provoquent les hausses incontrôlées des prix du carburant. Il a dû intervenir et amortir ce qui serait une situation désastreuse si nous avions totalement supprimé les subventions comme prévu à l'origine avant le début de la guerre en Ukraine, a déclaré le ministre de l'Énergie, Peter Kapala. Pour terminer, les pays exportateurs de pétrole ont produit en mai 2,695 millions de barils par jour en dessous de leurs objectifs, selon Reuters. Le mois dernier, les prix du Brent ont atteint en moyenne leur plus haut niveau en une décennie à près de 123 dollars le baril, alors que les prix de juin se situent juste en dessous à une moyenne de 118 dollars le baril. Par ailleurs, l'approvisionnement de l'OPEP est confronté à des défis supplémentaires ce mois-ci à cause d'un nouveau blocus des installations du brut libyen qui a considérablement réduit la production pétrolière du pays.
Les sports à présent avec Élisée Pompatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour démarrer avec les éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans. On connaît désormais les qualifiés pour les demi-finales du tournoi UFOA B.
Oui, les qualifications de cette zone qui se disputent à Cape Coast au Ghana. Le Burkina Faso, vainqueur 4-2 de la Côte d'Ivoire au terme d'un match renversant, affrontera le pays organisateur qui finit deuxième du groupe A à la faveur de son succès 3-0 sur le Togo. Et malgré leur défaite, les Ivoiriens finissent deuxième du groupe B et joueront la redoutable équipe du Nigeria. Les matchs auront lieu demain et détermineront les deux qualifiés pour la phase finale de cette CAN prévue l'an prochain en Algérie.
Autre CAN, celle des dames qui aura lieu au Maroc du 2 au 25 juillet prochain.
Et certaines sélections s'activent déjà, notamment le Sénégal et le Cameroun, qui se sont affrontés en match amical. Et ce sont les Camerounaises qui l'ont emporté 1-0. Les Lions indomptables à Rabat évolueront dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, du Togo et de la Zambie. Les Sénégalaises, elles, sont logées dans la poule A avec le pays hôte, le Maroc, l'Ouganda et le Burkina Faso. Marocaines et Zambiennes aussi en préparation se sont neutralisées hier 1-0.
Football toujours, la Confédération africaine de football confirme le retour de ses awards.
Exactement Idrissa, il s'agit de la prestigieuse cérémonie de remise des récompenses du football africain qui aura lieu demain au Maroc. L'événement coïncide également avec le 10e anniversaire du lancement de la stratégie du football féminin de la CAF. D'ailleurs, une nouvelle catégorie a été introduite suite au début réussi de la Ligue féminine des champions de la CAF en novembre dernier. Il s'agit de la joueuse interclub de l'année. Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres du groupe d'études techniques de la CAF, des journalistes sélectionnés et des légendes du football africain.
En athlétisme maintenant, Élisée, Hugues Fabrice Zango au pied du podium au meeting de Paris.
Tout à fait. Le Burkinabé, champion d'Afrique, finit quatrième en triple saut à Charletti, loin derrière le Cubain Jordan Diaz et son bond à 17,66 m. Déception pour Zango, mais tout de même content d'avoir pu sauter sans douleur.
La place n'importait plus en fait aujourd'hui. Ce qui importait, c'est de prendre un maximum d'informations. Et donc, pouvoir sauter sans douleur, ça c'était la première chose. Puis, vraiment très content de pouvoir sauter sur tout mon élan. Donc, c'est la première compète sur tout mon élan. Après ma blessure de cet hiver, j'ai pris des informations. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et je pense que les choses se mettront en place d'elles-mêmes d'ici au monde.
Un meeting de Paris qui n'a non plus réussi à Marie-Josée Talou. L'Ivoirienne termine troisième du 100 mètres dames en 11 secondes. Satisfaction en revanche pour l'Afrique. Le Sud-Africain Luzolo Adams a remporté le 200 mètres masculin en 19 secondes 82 centièmes. Un record personnel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seguia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, le camp de réfugiés d'Avepozo, dans la banlieue est de Lomé, accueillant les réfugiés ivoiriens depuis 2011, va fermer à la fin de ce mois. En accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement ivoirien vient de délivrer le passeport ivoirien aux derniers occupants de ce centre qui en ont fait la demande. D'autres ont décidé de rester au Togo. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Au nom du gouvernement ivoirien, je voudrais vous remettre officiellement ce passeport.
Ambiance particulière, empreinte d'une certaine émotion pour les Ivoiriens du centre de réfugiés d'Avepozo. Jonas vit dans ce centre depuis 2011. Il a finalement obtenu son passeport ivoirien, mais a choisi de rester pour toujours dans son pays d'accueil.
Déjà, on a eu une base ici, on a eu de la famille ici, on a eu des relations ici, on a pu s'intégrer. Et aujourd'hui, on arrive à faire nos propres activités. Ils nous ont donné la sécurité et aujourd'hui, on se sent mieux ici. Donc, je pense que si on continue dans cette lancée, on peut s'en sortir. Voilà, donc j'ai décidé de rester.
Francis, lui, a décidé de rentrer dans son pays, quelles que soient les difficultés auxquelles il fera face.
Moi, j'ai opté pour partir. J'ai jugé bon de rentrer chez moi parce que d'abord, j'ai vieilli ici déjà, sans rien faire. Et j'ai une famille derrière moi. Donc là... Vaut mieux rentrer.
Rester ou partir, le choix est difficile pour Fofana qui veut se donner un peu de temps avant de décider.
Quand je sortais du pays, j'étais un peu dans un cadre un peu bien quand même. Mais aujourd'hui, j'ai perdu tous ces privilèges-là. Et le retour, ça ne sera pas facile parce que je ne saurais pas où entrer véritablement. Donc, je vais me chercher d'abord, peut-être trouver une issue ou bien une stabilité, puis bon, chercher à rentrer ensuite. Sinon, dans l'immédiat, ça serait un peu difficile pour moi là-bas.
La délégation du gouvernement ivoirien, venue pour la circonstance à Lomé, a promis à ceux qui vont revenir au pays qu'ils ne seront pas laissés pour compte. Abdoulaye Kouyaté, du ministère ivoirien des Affaires étrangères.
Une fois de retour au pays natal, vous bénéficierez de toutes les politiques mises en œuvre à cet effet. Par le gouvernement ivoirien, il y a un accompagnement qui est prévu. Aucun aspect n'a été négligé, qu'il s'agisse de documentation, d'éducation, d'emploi, de santé, de solidarité et même de cohésion sociale.
Selon les accords entre l'État ivoirien et le Haut Commissariat aux réfugiés, le statut de réfugié reconnu aux Ivoiriens qui ont fui leur pays après les tensions post-électorales de 2011 cesse à la fin de ce mois. Le Haut Commissaire du HCR est attendu à Abidjan pour marquer l'événement à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Au Nigeria, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a déclaré Biodun Oyebanji, le candidat du parti APC au pouvoir, vainqueur de l'élection pour le poste de gouverneur de l'État d'Ekiti dans le sud-ouest du pays. Ce vote est considéré comme un test avant l'élection présidentielle de février prochain. Le point avec Gilbert Tamba, notre correspondant au Nigeria.
Selon la Commission électorale nationale indépendante, 988 923 électeurs ont participé samedi à l'élection du nouveau gouverneur dans l'État d'Ekiti, dans le sud-ouest du Nigeria. 16 partis politiques ont présenté des candidats dans cet État dominé par l'ethnie Yoruba. Il y avait 3 favoris, dont Biodun Oyebanji du All Progressives Congress, le parti APC au pouvoir, Bisi Kolawole du People's Democratic Party ou PDP, principal parti d'opposition, et Segun Onish du SDP, le Social Démocrate. Le parti APC du président Buhari conserve le gouvernorat de l'État d'Ekiti avec la victoire de son candidat Biodun Oyebanji. Il a recueilli plus de 187 000 voix contre son principal adversaire, le candidat du SDP, Segun Onish, avec 82 211 votes. Oyebode Adebowale est le commissaire résident de la CENI pour l'État d'Ekiti.
Considérant que Biodun Abayomi Oyebandji de l'APC, ayant satisfait les dispositions de la loi, est déclaré vainqueur et élu gouverneur. Signé par le commissaire résident en charge du scrutin ce 19 juin 2022.
Le nouveau gouverneur d'Ekiti, Abiodun Oyebandji, occupait jusqu'ici le poste du secrétaire général du gouvernement de l'État d'Ekiti sous le gouverneur sortant Kayode Fahimi. Ekiti fait partie des 8 États de la Fédération du Nigeria sur les 36 où les élections des gouverneurs n'ont pas lieu en même temps que dans le reste du pays en raison des contestations juridiques des résultats des élections précédentes. La dernière élection pour le poste de gouverneur de l'État en 2018 a été entachée de violences et d'accusations de fraude. Avant le vote de samedi, les candidats avaient signé un accord s'engageant à éviter la violence et à accepter le résultat du scrutin. Et quelques 17 000 agents des forces de l'ordre ont été déployés pour assurer la sécurité. Autre problème signalé samedi, certains électeurs n'ont pas pu glisser leur bulletin dans l'urne. La machine déployée par la CENI ne pouvait pas reconnaître leur accréditation, une étape incontournable avant de poser son bulletin dans l'urne.
Mon nom se trouve sur la liste et j'ai ma carte avec moi, mais il n'existe pas dans la machine. Ils ont essayé de confirmer au niveau de la machine pour me permettre de prendre la photo sans succès. Je ne sais pas à qui la faute, dont la réalité est que j'ai été écarté, je ne pourrais pas voter alors que toutes mes conditions sont remplies. Mon nom est là, mais je ne peux pas voter.
Plusieurs organisations avaient envoyé des observateurs sur place. Yaga Africa a déployé des équipes pour observer le déroulement des opérations de vote et de dépouillement. Son directeur exécutif Samson Itodo fait le point.
Nous félicitons la CENI qui a réalisé des améliorations après Anambra. Mais ça c'est juste pour l'état d'Ekiti. Nous avons Osun dans quelques semaines. Nous devons consolider les acquis. Toute tentative par n'importe quel parti pour perturber les préparatifs pour Osun ne sera pas tolérée.
L'élection de samedi était considérée par les Nigérians et beaucoup d'observateurs comme un test avant l'élection présidentielle de février prochain. Le parti APC au pouvoir est accusé d'avoir acheté des voix pour emporter le scrutin. Le président du groupe des Nigérians concernés, Deji Adeyanju.
L'APC a acheté l'élection du gouverneur d'Ekiti avec 5 000 naira dans certains bureaux de vote et 10 000 naira dans les bureaux où il y avait la résistance des partis politiques.
Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement initie des solutions à la cherté de la vie. Le ministre du Commerce a organisé une foire promotionnelle pendant laquelle les Camerounais ont pu acheter des produits de grande consommation à des prix hors concurrence, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juluntap.
Une cinquantaine de femmes attendent dans la cour et les couloirs de la délégation départementale du ministère du Commerce à Yaoundé. Depuis les premières heures de la matinée, elles espèrent ressortir avec quelques produits de grande consommation. Mais l'affluence engendre déjà quelques incompréhensions. Annette est coiffeuse. Elle a 3 personnes à charge. Elle est venue très tôt, mais repart les mains vides.
Pour prendre le numéro, il faut venir à 4. On donne le numéro 250 numéros. Et maintenant, là, on dit que c'est arrêté. Et ils ne sont qu'à 26 personnes pour recevoir depuis le matin. Nous sommes dessus, nous on rentre.
Dans une salle attenante, où sont disposés divers produits. 6 personnes coordonnent la vente sous la supervision de Ashuru, responsable de la communication de l'entreprise Ramassad, qui a décidé de vendre les produits à des prix homologués.
Les consommatrices, elles viennent ici. On essaie de les recenser via des tickets. Et avant d'entrer, elles essaient de recenser leurs commandes. Et on les appelle, bien ils entrent ici, on les sert. Et après, ils passent à la caisse pour payer.
Sourire aux lèvres, Alice, la cinquantaine révolue, a pu faire ses emplettes.
J'ai acheté de l'huile, du riz parfumé, du sel, le savon. L'huile Mayor coûte généralement au quartier 2000 francs, 1800. Je l'ai pris ici à 1200. Le riz parfumé, lui, coûte 5000. Je l'ai pris ici à 3000 francs.
Cette vente promotionnelle des produits de grande consommation a attiré aussi les hommes. Daniel Mouabiteng dit qu'il n'en peut plus de dépenser énormément pour la ration alimentaire. alimentaire en raison de la cherté de la vie.
Je donnais 40 000 francs le mois, j'ai ajouté 20 000. C'est vraiment difficile.
Le ministère du Commerce a multiplié ces derniers mois des initiatives pour lutter contre la vie chère, avec notamment de telles campagnes. Armel Valentin à Bénin, chef de brigade départementale des contrôles et de la répression des fraudes.
C'est une opération spéciale qui ne concerne pas les commerçants, mais uniquement le consommateur final, parce que cette opération vise à soulager les ménages.
La société civile interpelle le gouvernement à plus de fermeté contre une inflation injustifiée. Georges Ngono Edoua, coordonnateur de la plateforme d'association de consommateurs pour la protection de l'intérêt économique et social du Cameroun.
Vous ne pouvez pas me dire qu'au Cameroun, les denrées font l'objet de la spéculation, soit disant que la guerre en Ukraine. Il est vrai que le ministre du Commerce fait quand même un travail, mais il n'a pas de support pour ses collaborateurs qui peuvent amener sa politique à prospérer, raison pour laquelle vous voyez que le désordre que vous constatez sur le terrain.
L'Institut national de la statistique du Cameroun a indiqué le mois dernier que le taux d'inflation du pays pourrait franchir la barre des 3% cette année. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, une session du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau s'est tenue la semaine dernière à N'Djamena. Une rencontre qui a permis de plancher sur la problématique de l'accès à l'eau potable sur le continent. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Donner de l'eau potable à la population africaine est toujours un défi majeur, car l'accès à l'eau, c'est aussi l'accès à la nourriture, à la santé, à l'éducation et à l'énergie. Les experts de cette association sont à leur 89e rencontre pour améliorer l'accès à ces liquides vitaux subissant la pression démographique et le changement climatique. Sylvain Ocha, directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau.
Le problème du secteur de l'eau en Afrique est un problème de volonté politique. Les ressources financières dont on a besoin pour réaliser les extensions de réseaux n'est pas une somme d'argent qui est inimaginable pour laquelle on ne pourrait pas accéder.
Il appelle les différents gouvernements à limiter les dépenses inutiles et mettre l'argent dans ce secteur vital, car tout le monde a besoin d'eau, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux et les plantes.
L'amélioration de l'accès à l'eau potable joue inéluctablement sur la santé. Et la santé joue sur la productivité des individus. Quand on regarde aujourd'hui en Afrique, là où il y a beaucoup d'eau, la couverture n'est pas forcément celle qui correspond à la quantité d'eau disponible dans le pays. Là où il n'y a pas beaucoup d'eau, pour des raisons de volonté politique, la couverture est maximale. Je prends un exemple. Le Maroc, qui est un pays proche du désert, mais lorsqu'on regarde aujourd'hui le taux de couverture du Maroc en milieu urbain, il est de 100%. Ça veut dire que 100% des populations urbaines ont l'eau.
Contrairement au Maroc, au Tchad, l'accès à l'eau potable est très faible. C'est même une denrée rare pour les populations qui sont parfois obligées de boire un liquide d'une origine douteuse. Quelques citoyens témoignent à N'Djamena.
On a des pompes et des fois les pompes là, y a des couleurs. On ne sait pas si l'eau là est potable ou pas.
Est-ce qu'il y a l'eau potable ici au Tchad? C'est le haut cadre qui boit l'eau potable. Nous, on est en train de boire l'eau de pompe là. S'il y a le fuseur à côté, ça vient dedans.
Chaque fois les gens sont malades, c'est parce qu'on n'a pas l'accès à l'eau potable.
Pour la directrice générale de la société tchadienne d'eau, Hissène Koubra Itno, les efforts sont faits pour soulager la souffrance de la population.
On est passé de 20% à 40% et 63% maintenant. Mais ce n'est pas assez, parce que l'objectif c'est 83% à l'horizon 2030. D'ailleurs, c'est la politique du chef de l'État d'atteindre par tout le monde ce taux-là.
Les défis sont innombrables. D'abord, amener l'eau au robinet pour tous les Tchadiens sera plus difficile à réaliser que le fameux dialogue national. En Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, Conakry se bat pour son accès à l'eau. En République démocratique du Congo, un des pays les plus arrosés du monde, une partie de sa population n'a toujours pas accès à l'eau ni à l'électricité. Enfin, le Nil, l'un des plus grands fleuves du monde, charrie le risque de la plus grande guerre jamais connue sur le continent pour l'accès à l'eau. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot et à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.